I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-il possible de s'entraîner au trail en ville, et encore plus dans une région plate? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter avec mes invités du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mode de vie sportif et aussi donc de trail. Et vous savez que j'ai commencé mes aventures sportives par le trail avant de me lancer dans le marathon. Ma première course, mon premier dossard était un trail. Mais moi j'ai un avantage, je vis en Auvergne et j'ai de la pente. Quand je pars de la maison, ça monte, quand je reviens à la maison, ça monte aussi. Bah oui, parce que je suis au milieu d'une côte, j'ai de la montée un petit peu partout autour de la maison, j'ai des chemins, j'ai les volcans autour de moi. Donc le problème de l'entraînement en trail n'est pas très compliqué pour moi. J'ai même le départ de mon trail, mon premier trail, qui est à moins de 1 km de la maison et je peux y aller en courant. Mais comment on fait si on n'habite pas à la campagne? Ce qui est le cas de beaucoup de vous, d'entre vous. Parce que c'est ça le grand paradoxe. Le trail est la discipline qui se développe le plus vite depuis 10 ans. Nous sommes nombreux à vouloir prendre l'air, sortir du bitume, bifurquer sur les chemins. Surtout cette année particulière hein, avec le Covid, où souvent les trails ont été des courses qui ont été maintenues quand les courses sur route ont été annulées. Et logiquement, il y a plus de trails que de courses sur route. Hein. Il y a maintenant plus de 2500 trails organisés en France chaque année, alors qu'en 2018, il y avait à peine 1100 courses qui étaient sur route, qui étaient organisées. Et en même temps, le grand paradoxe, c'est qu'il y a 50 millions de personnes, donc les trois quarts de la population française, habitent en ville, selon des données de 2016. Alors inévitablement, se pose la question, comment s'entraîner pour du trail quand on habite en ville? Comment se préparer aux côtes et aux descentes? Comment préparer son corps aux chemins techniques? Comment préparer son matériel dans les rues? Comment faire pour ne pas se faire une cheville à la première et au premier caillou qui arrivera sur un chemin un petit peu escarpé? Est-ce possible de faire l'UTMB ou la Diagonale des Fous en habitant en plein Paris, en se préparant en plein Paris? Ce sont exactement les questions que j'ai posées à mes invités du jour, Antoine Miel, l'athlète, on dira, et Eric Alberto, son coach, qui sont associés, qui ont écrit un livre, Trail, je m'entraîne en ville, dans lequel ils donnent justement leur tactique, leur plan d'entraînement, comment ils ont préparé Antoine Miel, qui a fait plusieurs Diagonales des Fous, qui a fait l'UTMB, qui fait des grands trails, etc. Comment ils préparent l'athlète à courir tout simplement des trails en s'entraînant en ville, puisqu'ils sont à Paris, hein, voilà, ils sont à Paris. Et donc ensemble, nous avons discuté de comment ils avaient, eux, imaginé les choses. Nous avons discuté de la transition de la route aux cailloux, des rues plates et pleines de boulangeries au chemin escarpé sur lequel on doit amener son ravitaillement, donc porter son ravitaillement, avoir des stratégies de ravitaillement. Comment on peut préparer son corps? Quels sont les éléments importants en trail? Pourquoi la vitesse n'est pas si importante? Quels sont les moyens technologiques qui peuvent aussi nous aider quand finalement on n'a pas de pente autour de la maison, quand on n'a pas tant d'escaliers? Bah oui, il y a aussi des outils technologiques qui peuvent nous aider. Quels sont les éléments qu'on doit travailler et qui ne sont pas que de la course à pied, mais on va penser notamment au renforcement et à la fameuse proprioception dont on va parler vraiment un petit peu plus en détail, parce que c'est un élément qui est très important pour le trail et qu'on a tendance à peut-être à négliger quand on vient de la route, alors que pourtant c'est un élément qui est extrêmement important. Vous allez découvrir tout ça dans un épisode très riche en conseils, et découvrir aussi quelques secrets, comme par exemple le ravitaillement préféré d'Antoine, qui est un petit peu surprenant, je vous l'avoue, et que vous ne trouverez peut-être pas dans tous les livres sur le trail et la course à pied, mais en tout cas qui à lui lui fait du bien. Mais avant de vous laisser écouter cette discussion, je voudrais d'abord vous remercier. D'abord un merci à ceux qui supportent le podcast par Patreon. Vous savez que mon projet à moi, c'est de changer de vie et de vivre par le biais du sport, de vivre mon sport, d'être un sportif. Alors, est-ce qu'on peut dire professionnel? En tout cas, de vivre par le biais du sport. Et vous me permettez de le faire notamment par Patreon, mais vous permettez aussi de le faire en écoutant les petites publicités hein, que vous entendez au début et au milieu du podcast et à la fin du podcast. En donnant à partir d'1€ sur Patreon, vous m'aidez à construire cette vie et vous avez en bonus les épisodes de mon journal privé d'entraînement. Tous les lundis matin, je vous fais un journal privé d'entraînement dans lequel je vous donne les coulisses et je vous dis aussi comment je me suis entraîné, sur quoi j'ai travaillé et aussi les prochains invités du podcast. Et puis, vous avez aussi les épisodes sans la pub, c'est-à-dire que vous avez un flux RSS vraiment privé rien que pour vous, dans lequel vous avez aussi l'épisode que vous entendez là, mais sans la publicité. Donc pour participer, c'est très simple, vous faites patreon.com/km42, je vous mets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Je voudrais aussi vous remercier pour les commentaires, notamment Tonio qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles qui me dit « Un podcast au top, sympathique, plein de conseils, de bonne humeur et d'expérience. Bravo et continue, c'est du 5 étoiles, merci !» avec des petits yeux et des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais aussi vous remercier pour vos dédications Instagram. Vous savez que c'est assez simple, hein, vous faites une story, par exemple, vous me dites où vous êtes en train de courir, vous êtes en train d'écouter le podcast, et puis vous me faites une petite story en me taguant @BertrandSoulier ou le hashtag KM42podcast, et puis moi, je vous repartage ça, on discute, etc., on partage, et on construit comme ça la communauté autour du plaisir de courir, tous ensemble, parce que finalement, c'est un sport individuel, mais qu'on fait finalement en équipe, notamment par le biais du club, du Hamsters Running Club. Là aussi, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. C'est la communauté que je suis en train de monter, sur laquelle vous pouvez nous rejoindre dans la bienveillance. On discute de tous les sujets qui nous préoccupent en tant que coureurs, mais aussi des sujets annexes, et ça dans la bonne humeur, la bienveillance surtout, pour progresser tous ensemble. Voilà, cette intro est en fait, il est temps maintenant de plonger dans cet épisode avec mes invités, non sans vous avoir dit que ma prochaine course est un trail. Hein. Dans quelques jours, je m'engage sur un trail de 28 km avec 850 mètres de dénivelé. Voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire que je me fais. Vous savez que chaque année, je fais un cadeau d'anniversaire lié désormais à la course à pied. Pour mes 40 ans, c'était le 10 km, mon premier 10 km, hein, qui suivait de quelques mois mon fameux premier trail. Et puis pour mes 42 ans, c'était mon marathon, hein, mes 42 km, mon fameux marathon qui a lancé ce podcast. Et ben pour mes 44 ans, ce sera ce trail de 28 km. Voilà, c'est mon petit cadeau. Je n'allais pas faire un kilomètre forcément par an, mais en tout cas, c'est une manière pour moi de fêter mon anniversaire dans le sport, dans une manière sportive, parce que c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui a aussi vraiment changé le cours de ma vie ces dernières années, et c'est aussi pour moi très symbolique de fêter mon anniversaire, de passer les changements d'année comme ça, en faisant finalement ce sport que j'aime tant, et que nous aimons tant tous les uns et les autres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, cet épisode va vraiment vraiment vous aider, si vous voulez vous aussi partir sur les chemins, partir découvrir le bonheur de courir sur les sentiers, sur les chemins plus ou moins escarpés. C'est parti, je vous laisse avec ma discussion avec mes invités. Bonjour Antoine, bonjour Eric.
Bonjour à toi, bonjour Bertrand.
Salut Bertrand.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, c'est un épisode... Alors, je disais avant, j'avais toujours des invités solitaires, et ça fait deux épisodes presque d'affilée que j'ai un couple. Alors, vous nous expliquerez quel type de couple vous étiez. Dans un épisode, c'était des couples de swimrunners qui couraient, qui étaient toujours ensemble, etc. Et là, on est plutôt sur la notion athlète sportif, enfin un coach, hein, donc je vais vous laisser vous présenter. Nous dire un petit peu qui vous êtes, et puis on va tout de suite le dire en fait, c'est que vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle Trail, je m'entraîne en ville, et on va voir justement pourquoi vous avez écrit ce livre et quels sont les conseils que vous pouvez nous donner.
Alors bonjour tout le monde, donc moi c'est Antoine, j'ai 35 ans, j'ai pratiqué le judo pendant une vingtaine d'années, j'en avais assez d'être enfermé dans un gymnase, donc je suis tourné vers une activité d'extérieur, et c'est vrai que la course à pied est venue naturellement parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à pratiquer sans contrainte. Donc j'ai commencé à courir, ça fait une dizaine d'années, mon premier marathon, et puis après j'ai été explorer le triathlon, j'ai fait plusieurs Ironman, après je suis tourné sur le trail, et au fur et à mesure j'ai allongé les distances, et à chaque fois c'était vraiment que sous forme de défi. Donc je m'entraînais tout seul, donc forcément pas très bien. Et en parallèle, donc je travaillais et je travaille toujours chez Private Coach, donc avec Eric. Et Eric, au fur et à mesure, s'est un petit peu penché sur mon sujet concernant la préparation. Donc à savoir, Eric, c'était mon prof à la fac. Donc c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a recruté. Et après, on est devenus amis. Et puis maintenant, entraîneur, entraîné. Voilà, donc au fur et à mesure, il s'est tourné vers moi pour me préparer. Au début, j'étais un petit peu réfractaire parce que je cherchais vraiment une pratique en liberté totale parce que j'en avais assez des structures, les clubs. Et au fur et à mesure, il s'est penché sur mon sujet, il m'a préparé. Et puis, on a allongé les distances ensemble jusqu'à faire plusieurs ultra-trails dans l'année.
D'accord. Voilà. Et donc, Eric ?
Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle donc Eric Alberto, j'ai 43 ans. J'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années le rugby. Puis je me suis orienté vers le côté éducateur et entraîneur de rugby que j'ai pratiqué pendant 8 ans ce métier-là. Et puis je suis tombé dans les salles de remise en forme, puis dans l'enseignement à l'université. C'est comme ça que j'ai connu Antoine. C'était l'un de mes élèves. Et puis voilà. Ensuite, on a été donc amené à bosser ensemble. Moi, la prépa physique m'a toujours intéressé. Et ce qui était intéressant, voilà, avec Antoine, c'est qu'il a voulu se lancer là-dedans. Et en même temps, il cherchait un cadre pour le coacher, pour l'entraîner, parce qu'on sait très bien que s'entraîner seul, ça a quand même ses limites. Et même les meilleurs au monde, les meilleurs mondiaux, par exemple au tennis, on prend Federer. Même si on n'a pas grand-chose à lui apprendre aujourd'hui, il a quand même besoin d'un entraîneur pour justement cadrer aussi bien le sous-entraînement que le surentraînement dans les deux sens. Et c'est en ça qu'on s'est mis à travailler ensemble depuis une dizaine d'années et qu'on a développé notre méthode sans savoir qu'on allait écrire évidemment ce bouquin. C'est juste, ce bouquin est venu à la suite d'un constat où on a fait un bilan sur 10 ans et on s'est dit, ben, y a eu aucune blessure en 10 ans, il n'y a eu aucun abandon, une prépa qui n'a fait que le faire progresser. Et donc on s'est dit, bah, il faut qu'on parle de notre façon de travailler parce qu'aujourd'hui beaucoup de trailers habitent en ville. On va dire quasiment 80% des trailers habitent en ville. Et donc beaucoup de gens s'entraînent voilà, pour faire des petits trails, c'est-à-dire reprennent des schémas de course à pied classique, semi ou marathon, essaient de l'appliquer au trail, mais le trail a beaucoup de spécificités dont on parle dans le bouquin. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire ce petit bouquin, voilà, sans aucune prétention, mais pour partager.
Oui, et qui remplit, c'est vrai, un vrai manque, j'ai envie de dire, parce que le nombre de personnes que je côtoie qui s'entraînent en disant, bah, je sais pas trop comment on s'entraîne au trail, d'ailleurs, parce que on habite en ville, il y a une grande partie quand même des Français qui habitent en ville, hein, et puis si on extrapole tous les auditeurs, on en a qui habitent dans des grandes villes, dans des petites villes, etc., mais toujours, souvent, avec une majorité quand même où on s'entraîne sur du bitume. Et passer du bitume au terrain vallonné, caillouteux, etc., c'est pas si simple que ça. Alors, d'ailleurs, c'est une question que j'avais eue, hein, sur une des premières questions qui a été posée quand j'ai demandé. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce qu'on fait finalement pour passer, hein, d'un entraînement ville à du trail? Parce que ça semble être deux environnements qui sont totalement différents.
Nous, en fait, pour pallier justement le fait d'être dans un environnement urbain et très bétonné, on l'a compensé beaucoup par du renforcement musculaire. Bon, c'est vrai que pour nous, c'est facile parce qu'on est dans une salle toute la journée, mais c'est vrai que nous, on a compensé ça en faisant beaucoup de renforcement musculaire et aussi beaucoup de travail de proprioception, de gainage, donc tout ce qui est travail d'équilibre et de sangle abdominale. Donc c'est vrai que la préparation englobe beaucoup, beaucoup de renforcement musculaire pour justement déjà à titre préventif par rapport aux blessures et aussi bah, pour justement mieux transposer après nos qualités en montagne.
Alors, dans le synopsis du livre, vous dites quand même que bon, il y a 60 exercices sur les entraînements appropriés à l'univers, etc. Et vous dites, vous franchirez étape par étape les kilomètres qui vous séparent des plus hautes montagnes et des courses les plus ardues. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser comme course si je m'entraîne dans le centre de, je sais pas, de Paris, allez, on va dire.
Toutes les courses pour moi sont jouables, toutes les courses sont atteignables. Ce qui compte vraiment pour moi en tant que préparateur, je l'ai vu sur Antoine qui à la base n'avait pas forcément de qualité pour aller sur l'ultra trail puisqu'il était judoka. En fait, il faut vraiment y aller étape par étape. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire du trail parce que ça a l'air sympa, la tendance est là, on s'éloigne des villes, on a besoin de verre, etc. Mais très souvent, comme pour beaucoup de choses, ils grillent des étapes. Et à vouloir aller trop vite sur ce type d'activité, on peut très très facilement se griller. Ça peut être voilà, des problèmes aux genoux, des problèmes au dos, des pubalgies, etc. Donc tout est atteignable, tout objectif est réalisable, mais ce qui va faire la différence, c'est le temps qu'on va mettre pour y arriver. Donc même en habitant à Paris, on peut y arriver. Et puis voilà, on l'a expliqué dans le livre, c'est différentes méthodes qu'on peut appliquer en ville, comme des escaliers. Dans toute ville, il y a très souvent des petites côtes voilà, qu'on va répéter. On n'a pas des côtes infinies ou des côtes de 20 km comme en montagne. Donc voilà, on a créé une petite méthode et ça, c'est intéressant puisqu'on l'a testé et ça marche. C'est ça qui est le plus important. Ouais.
D'accord, donc ça marche, on va dire, vous avez fait quoi, l'UTMB, ça marche?
Moi, j'ai fait plusieurs fois la Diagonale des Fous, j'ai fait plusieurs fois l'UTMB. La Diagonale des Fous, j'ai réussi à gagner 15 heures en 4 ans. Donc ma première Diagonale des Fous en 2013, où je me suis entraîné tout seul, j'ai mis 49 heures. Et en 2017, en étant entre les mains de Rico, j'ai fait moins de 35 heures. Donc c'est vrai qu'on a vu que bah, le fait d'être vraiment cadré, préparé, bah, ça marchait. Donc plusieurs fois l'UTMB, j'ai fait le Mont Fuji, Madère, les Canaries, Oman, enfin voilà, beaucoup beaucoup de trail. Voilà, donc des techniques, des moins techniques. Donc voilà, en habitant toujours en ville, parce que j'ai toujours habité à Paris ou en banlieue parisienne.
D'accord.
Pour la petite anecdote, excuse-moi Bertrand, je te coupe, mais pour la petite anecdote, ce qui nous a vraiment déclenché l'envie de réaliser cet ouvrage, c'est donc Antoine qui en 2017 fait 15 heures de mieux que son précédent, sa précédente course à La Réunion sur la Diago. Et en rentrant, il me dit, écoute, quand j'ai annoncé que j'avais fait 35 heures, qui est quand même un temps assez intéressant, les gens s'intéressaient pour savoir de quel massif il venait en métropole. Et quand il a dit qu'il était parisien, qu'il s'entraînait à Montmartre et sur des tapis de course, il n'y croyait pas. Donc voilà, on s'est dit, je pense que tu n'es pas le seul, on n'est pas les seuls et beaucoup de gens doivent se poser des questions. Alors on est parti sur le bouquin, sur une première partie qui part des petits trails de 10-15 km à 80. Et en projet, nous sommes en train de travailler sur le deuxième qui partira de 80 à 180.
D'accord. C'est une question d'ailleurs que j'ai eue. C'est quelqu'un qui demande, et lui, il habite, on va dire, région de Bordeaux, hein, où là, vraiment, il y a pas énormément de pente hein, quand même. Il dit, est-ce qu'on peut s'entraîner sur un stepper ou sur les marches, je pense, dans les salles de sport, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, les escaliers qui on monte sans fin, là. Est-ce que ça permet de s'entraîner pour du trail?
Alors, pour moi, oui. Alors, sur les steppers, c'est différent parce que c'est un mouvement qui est particulier, mais ça peut rentrer dans le cadre d'un entraînement et ne pas faire que ça. Et le climber, pareil. Le climber, c'est hyper intéressant, mais même chose, on ne prépare pas une course en faisant que ça. Et comme pour moi, la course à pied, évidemment, ça reste l'essentiel d'une épreuve. Mais il ne faut pas faire que ça. En gros, aujourd'hui, il y a deux axes qui partent en course à pied. Et pour la préparation au trail, il y a ceux qui font beaucoup de bornage, donc ils font que de la borne, plutôt plat, avec du vallonné, quelques côtes, etc. Mais qui avalent beaucoup, beaucoup de kilomètres, donc ce qu'on appelle le volume. Et puis, il y a une autre méthode qui est basée sur la qualité des entraînements. Alors, je ne dis pas que c'est pas qualitatif, hein. Mais sur la variété des entraînements, sur la proprioception, sur plein de petites choses qui vont faire que sans faire de la borne, on peut malgré tout évoluer positivement et sans se blesser surtout.
Alors, on va quand même placer le curseur de sans faire de la borne. Ça veut dire quoi? Parce que finalement, sur une préparation, on va dire, UTMB ou Diagonale des Fous, ça serait quoi finalement le kilométrage?
Ah, bah, y a des fuites un petit peu, je trouve, en avant, des gens qui avalent 200-250 km par semaine. Donc, voilà, pour moi, ça a ses limites. Ces limites-là, on les a atteintes dans les entraînements cadrés dans les années 70, sans faire l'historique de la prépa, mais avec un homme qui s'appelait Zatopek, qui était un coureur de 400, très connu, tchèque, et qui, lui, un jour, a réalisé 120 fois 400 mètres dans une de ses sessions d'entraînement. Ça lui a pris toute la journée. Et là, on a atteint le paroxysme un petit peu de l'entraînement où on s'est dit, voilà, pour aller battre des records, pour en faire plus, bah, il faut en faire plus. Et sans arrêt, on augmente le volume. Et ça, c'est limite. On ne peut pas. Donc, on est revenu sur des méthodes alternées, des croisements de filières, des choses un peu plus techniques qu'on explique assez simplement dans le livre, mais qui permettent, sans faire du volume, donc... c'est 150, 200, 200 bandes par semaine, pouvoir atteindre des strates assez intéressantes, d'être finisher et surtout, comme on le dit souvent avec Antoine, sans se blesser. Parce que ça, c'est le gros point noir du trail, enfin en tout cas du trail du sport à ce niveau-là.
Alors, quand je vous écoute parler, quand je pense comme ça à la préparation, je me dis, il y a des choses qui me semblent, on va dire, logiques, qu'on peut se travailler en ville, et puis il y a des choses qui me semblent plus difficiles à transposer. Alors, j'ai envie de dire, bon, trailler de la vitesse, si on fait du trail court, on a besoin quand même de vitesse, ça me semble facile à travailler en ville, ça.
Oui. Nous, c'est vrai pour tout ce qui est... nous, en fait, on utilise donc, les pistes d'athlée. Les pistes d'athlétisme, bon après les quais, ces choses-là, mais aussi les tapis, parce que quand on est dans une salle, c'est vrai que le tapis c'est le premier outil qu'on a à côté de nous. Donc c'est vrai que la vitesse, bon, quand on habite en ville, on n'est pas fort, on n'est pas désavantagé, qu'on a quand même les outils ou les lieux pour la travailler. Après, c'est sur le travail en côte où là va falloir être un petit peu plus ingénieux, voire même parfois inventif. Donc c'est vrai que pour les gens qui habitent en ville, nous on utilise beaucoup les escaliers. Bon bah Montmartre, c'est vrai qu'il n'y a pas Montmartre partout, mais dans toutes les villes il peut y avoir des spots avec des escaliers. On utilise aussi des côtes courtes qu'on va répéter ou pas. Et après pour revenir aussi à la question du stepper, bah en salle il y a les tapis et les tapis maintenant ils ont toutes de l'inclinaison. Donc c'est vrai que ça peut être un moyen aussi de travailler des côtes plus ou moins longues et avec des pourcentages un petit peu plus gros que ce qu'on a en ville. Donc nous, c'est un peu sur cet axe-là qu'on travaille, les côtes que la ville nous donne, les escaliers et le tapis en pente.
Oui, alors ça me fait penser, j'avais lu cet été le livre de Grégoire Chevignard, De mon canapé, la course la plus dure du monde, où lui, il a fait le marathon des sables très peu de temps, où il expliquait qu'il s'était inscrit aux courses verticales, là, dans les tours de la défense ou les choses comme ouais. Ça. C'est le genre d'exercice que vous donneriez à faire, ça?
Alors moi j'ai jamais participé à ces courses-là, mais dans le cadre de la préparation, ouais, j'ai beaucoup de Rico me challenge pas mal sur les escaliers à Montmartre parce que nous notre salle est vraiment à côté. Donc tu vois, l'objectif c'est de faire 15 montées le plus rapidement possible, 20 montées le plus rapidement possible. Ou maintenant on s'amuse à le travailler avec en se lestant. Tu vois, avec un petit gilet lesté ou des bouteilles d'eau dans un sac à dos. En fait, l'idée, c'est un peu de retrouver les contraintes qu'on peut avoir en montagne et de les transposer en ville. Mais c'est vrai que tout ça, ça a pris du temps parce qu'on a mis longtemps aussi à découvrir plein de choses. Mais c'est vrai qu'on on rentre souvent quelques petits challenges dans les entraînements ou dans la prépa pour un petit peu garder un peu cette stimulation de la compète.
Donc là, on a parlé, bon, vitesse, d'accord. L'endurance, bon, c'est facile à travailler, l'endurance, on peut en travailler partout. Finalement, c'est quoi? C'est de courir longtemps.
Alors, pas que, c'est l'endurance. Oui, l'endurance, c'est être capable de courir longtemps, mais pour ça, on peut utiliser, encore une fois, plusieurs chemins. Donc, c'est vrai qu'il y a les fameuses sorties longues. Mais nous aussi, on fait aussi beaucoup de vélo parce que le vélo, bah, l'avantage, c'est qu'on peut, on peut avoir un gros volume d'entraînement et ça crée peu ou pas d'impact, comme c'est un sport porté. Et tu peux rapidement arriver à des sorties de 3, 4, 5 heures, alors qu'en course à pied, bah, si tu fais des sorties de 3, 4, 5 heures, bah, le temps de récupération est plus long et le lendemain, c'est pas dit que tu puisses refaire une sortie. Le vélo, tu peux aussi le faire en peloton ou sinon, comme disait Rico tout à l'heure, on a mis en place beaucoup de séances mixtes où on fait vélo et course à pied. Tu vois, tu fais par exemple une heure ou deux de vélo et derrière une heure de course à pied. Comme ça, tu as au final 3 heures de volume, mais avec une activité qui est moins traumatisante que si tu faisais que 3 heures de course à pied. Et la dernière chose aussi qu'on a beaucoup travaillé, c'est le rando-trail. Il y a des massifs forestiers tout autour de Paris. Et là, tu vois, on fait des grandes balades, 4, 5, 6, 7 heures, mais sous forme rando-trail. Tu vois, on marche dans les côtes, on trottine un peu dans la descente. Vraiment, là, une grande rando. Et pareil, ça te permet d'accumuler du volume avec peu d'impact et peu de traumatisme.
Oui, j'ai l'impression que tous les coureurs cet été, j'ai dû partir à Fontainebleau faire les 25 côtes et qu'on m'a dit...
C'est exactement ça, voilà.
C'est l'un des spots. Moi, je le connais pas, mais c'est vrai que j'ai vu un nombre de personnes dire on va faire ça et tout, notre défi du week-end, c'est d'aller faire ça, etc. Donc, c'était assez, assez drôle de voir ça. Je me suis dit, il y aura un monde fou sur ces parcours.
Ça a été, c'était le cas. C'était le périph' des coureurs.
Juste pour ajouter, c'est vrai qu'en écrivant ce bouquin, on a rencontré également un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe Lefief, et qui a écrit et traduit plusieurs livres, Born to Run notamment. Eh bien, lui, en échangeant avec lui, c'est vrai que chaque coureur de trail un peu comme ça, qui a fait du TMB, des grandes courses, a un peu sa technique dans son coin, un peu esselé. Donc lui, il s'entraînait par exemple dans le 15e arrondissement, dans une tour où il habite, et une tour qui fait, je crois, quasiment 30 étages. Et donc, bah voilà, trois fois par semaine, il partait du sous-sol et il montait les escaliers. Donc, quand il y a eu les attentats, il a demandé une autorisation de pouvoir être dans les escaliers parce que les gens commençaient à demander ce qu'il faisait. Mais voilà, nous, c'était les escaliers à Montmartre, d'autres, c'est le bois de Vincennes, d'autres, c'est… Donc voilà, chacun avait un peu ses petits spots. Donc nous, on ne dit pas que notre méthode est la meilleure. Et justement, ce qui était difficile à faire dans ce bouquin, c'était de parler à tout le monde, quel que soit son lieu, qu'il habite à Lyon, qui est un peu plus vallonné que Bordeaux. Habitant aussi pas forcément en ville, ça peut être des petits villages en campagne, hein. Quand on dit ville, on ne pouvait pas tout mettre, mais voilà, s'adresser à tout le monde et que chacun puisse trouver le moyen de s'entraîner, dans le coin où il habitait. C'est pour ça qu'on a mis des séances mixtes, du vélo course à pied pour faire la pré-fatigue, voilà, et pas une seule méthode. Voilà, ce qu'on voulait vraiment, c'était que chacun devienne son propre préparateur physique. En gardant un maximum de bon sens et trop élevé sur les volumes ou en disant bah tiens je vais calquer ce que fait Kylian, je vais calquer ce que fait François Denne parce que s'il y arrive bah, je vais faire pareil, mais on peut pas se comparer à ça, donc voilà.
Oui, bon, après, ils ont chacun leur parcours et leur capacité, etc. Et on a chacun notre parcours. Alors, nous, on est un club de hamsters. Hein. Chez nous, on est des gens, on ne courait pas. Donc, on découvre ce que c'est que courir. Il y a quand même un mot que vous avez dit assez régulièrement depuis le début. C'est le mot proprioception. Et ouais. Sur lequel, en fait, il y a quand même pour beaucoup de gens, ça ne parle pas du tout, la proprioception, de savoir comment on travaille ça et à quoi ça sert.
Alors. Depuis tout à l'heure, tu dis très justement, est-ce qu'en ville, on est désavantagé pour travailler l'endurance ou les côtes, etc. Et donc, on t'a expliqué qu'il était possible, grâce à tout ce qu'on avait mis en place, de le faire. Le seul truc, vraiment, le seul point qu'on a comme point faible par rapport aux montagnards, entre guillemets, c'est la technicité du terrain. Voilà. Et les descentes. Donc, c'est deux points qui ont été vraiment compliqués à mettre en place. Et souvent, bah, quand tu cours derrière un montagnard, tu le vois tout de suite, il a le pied, ce qu'on appelle le pied montagnard, c'est-à-dire le pied qui se pose sur des cailloux de manière assez stable, fixe, alors qu'un citadin, bah, son pied va bouger davantage, va être plus mobile. Et donc, la proprioception, c'est la qualité de tes appuis. Ça va être... la solidité de tes articulations de manière générale, et puis là sur le trait, c'est vraiment l'articulation de la cheville. Donc c'est comment faire en sorte que ta cheville soit forte et que tu aies une bonne préhension au sol lorsque le terrain est accidenté, lorsque tu cours de nuit, que tu as juste une frontale pour t'éclairer et tu as des pièges partout, des feuilles, des cailloux, des trous, des branches. Voilà, donc pour éviter justement de se tordre la cheville et la blessure, bah on fait ce qu'on appelle du travail de proprioception, c'est-à-dire un renforcement, entre guillemets, un gainage des chevilles. Donc, c'est tous les petits muscles qui sont autour de la cheville, ce qu'on appelle des périarticulaires, bah renforcer tous ces muscles-là. Plus ils seront forts, et moins tu risques la blessure. Et sur un trail, sur des terrains accidentés, boueux, glissants, neige, etc., eh bien, ouais, tu risques rapidement une blessure,
ouais. Oui, parce qu'il faut le dire quand même, on a quelques auditeurs hein, dans le club qui ont marqué qu'ils avaient fait des entorses sur des trails, des choses comme ça, parce qu'il y a un moment donné, ça bouge, hein, et des cailloux, des trucs comme ça qui traînent. C'est bizarre, il y a des cailloux sur les chemins. On parlait de la technicité des chemins quand même, parce que c'est là où une limite, moi je vais courir sur mes chemins en Auvergne où j'ai de la caillasse, plus ou moins de caillasse sur où je vais. Cet été, je vais partir en vacances à Gruissant, à côté de Narbonne, où là, il n'y a que de la caillasse, et là, ça glisse dans tous les sens. Je ne reproduis pas ça.
Alors en fait, tu ne reproduis pas, évidemment, parce que ce n'est pas possible. Par contre, tu peux reproduire les tensions qui sont soumises, auxquelles sont soumises tes chevilles. Donc pour ça, il existe des plateaux de proprioception qu'on voit chez les kinés, par exemple. Donc c'est ces plateaux en bois un peu circulaires avec une petite boule en dessous. Il y a d'autres outils comme le Bosu qu'on voit un peu dans les SA. C'est ce coussin, une demi-sphère bleue sur une sphère, sur une planche un peu plate. Donc ça, c'est un outil de proprioception. Tu as les Swiss balls, là sur lesquels on est assis en ce moment. Je pense que tu les vois.
Voilà, moi aussi. C'est aussi mon fauteuil, je le dis. Ça fait des années que je suis assis sur un Swiss ball. Vous ne le voyez pas, mais moi, je rebondis dessus.
Et ben, grâce à ces outils, par exemple sur Swiss ball, tu peux te placer debout en te tenant à un espalier, une machine ou quoi que ce soit. Et justement, petit à petit, tu te lâches. Pour travailler donc tes chevilles, tu vas travailler ton équilibre. Et en fait, les muscles qui sont autour des chevilles, eux, vont travailler fortement sur ce type d'exercice. Et évidemment, tu ne peux pas reproduire le sol. Par contre, le pied, lorsque tu courras sur ce type de terrain, sera plus fort, plus solide. Et même si ce n'est pas le terrain sur lequel tu cours tous les jours, tes muscles seront forts et ta cheville sera forte. Par contre, on conseille aussi dans le livre de ne pas courir uniquement que sur des tapis ou que sur de la piste d'athlé, mais de temps en temps faire des petites sorties dans des parcs en terrain boueux, justement quand il pleut, favoriser une sortie en parc, en forêt, en jardin, pour travailler justement ses chevilles. Voilà.
J'ai eu des questions. Donc le passage de comment on fait pour passer de la route au trail. Moi, il y a une question qui est pure, on va dire technique, mais les chaussures sont pas les mêmes. Comment on fait pour parce qu'on peut pas s'habituer à courir en chaussures trail dans des rues pavées ou je sais pas comment ou ni dans les escaliers. Si vous l'avez fait.
Ouais, si on l'a fait. Après, moi, j'ai mis quelques années à trouver chaussures à mon pied. Mais maintenant, c'est vrai que j'arrive à courir avec des chaussures de trail en ville. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien les chaussures de trail assez légères, qui sont quand même proches des baskets de running. C'est vrai que je cours pas avec les Hoka, qui ont un très gros drop, sur Paris. Mais si, je cours avec les chaussures de trail dans les marches, ça me dérange pas. Mais par contre, j'ai mis quand même quelques temps à vraiment trouver la chaussure qui m'allait.
Oui, parce que après, il y a des chaussures quand même qui sont très raides pour les trails, avec des grosses semelles, etc. Moi, je cours en Altra et je suis content parce qu'elles sont souples. Elles sont assez souples les miennes, donc je suis bien dans mes Altra. Mais c'est vrai qu'il y a des chaussures dans lesquelles j'ai mis les pieds des fois. Je me disais, je me voyais pas courir un kilomètre sur la route avec.
Mais donc, mais c'est vrai que toi, moi, par exemple, avant, j'étais chez Brooks, toi, les Cascadia, très lourdes, très compliquées avec de courir sur route. Maintenant, je suis passé chez Salomon avec les S-Lab conçus par François Denne, entre autres. Et c'est vrai qu'elles sont quand même très, très proches d'une chaussure de course à pied, très fine, plutôt souple quand même pour des Salomon. Donc ça me va très bien. Mais j'ai mis quand même plusieurs années à trouver la chaussure où j'étais vraiment bien, à la fois en trail, sur route, où j'avais pas de cloques, de pieds qui frottent. Et c'est vrai que c'est vraiment très important d'être bien chaussé. C'est comme les pneus pour une voiture, quoi.
On déconseille quand même de courir avec des chaussures de trail sur tapis.
Oui, par exemple.
Voilà.
Alors pourquoi ?
Parce que les crampons, alors ça dépend des tapis. Nous, on a des tapis ici dans la salle qui sont assez modernes. Donc, ce sont des lattes en carbone et titane, donc carbone plutôt. Mais si c'est des bandes qui défilent, les bandes sont assez fines, elles sont assez glissantes. Et donc, si on court avec des crampons, on prend quand même on prend des risques de glisser. Donc, on conseille sur les tapis de prendre une bonne paire de running sur laquelle on n'a aucun doute sur l'efficacité et chaussons qu'on a au pied, mais après pour l'extérieur c'est bien de courir de temps en temps avec ses chaussures de course et pas les mettre uniquement pour la course.
Il y a beaucoup de questions sur les montées, mais avant d'aller sur les montées, parce que c'est un petit peu lié quand même, il y a la question du temps, la vitesse à laquelle on court, parce que ça c'est le grand débat, quelle vitesse on doit courir, et puis les débutants, beaucoup de débutants ne savent pas à quelle vitesse courir. Et entre du trail, de l'ultra, c'est encore des vitesses qui sont totalement différentes. Comment finalement, quand on passe, surtout quand on a fait de la route, et là je pense, parce que j'en ai certains, vous voyez, qu'on fait du marathon, un petit peu comme c'est ton cas, etc. aussi, comment finalement on arrive à trouver sa vitesse, comment on règle ça, et comment dans l'entraînement que vous voyez les choses, comment vous avez travaillé ça?
Alors, moi, à savoir, je cours que à la sensation. D'accord, j'ai jamais couru ni avec de cardiofréquence-mètre, ni avec de montre. Tu vois, même quand je fais du marathon.
À mon plus grand âme. Hein. Ah.
Donc moi, voilà, c'était vraiment pour le souci de la liberté, de me débarrasser vraiment de la montre. Donc c'est pour ça que les courses nature et le trail, ça m'a aidé très bien. Et c'est pour ça que du coup, dans notre livre, dans les programmes, on a quantifié les séances avec trois paramètres. Donc la fréquence cardiaque, pour les gens qui aiment travailler avec la fréquence cardiaque. La VMA, vraiment pour les gens qui adorent travailler avec la vitesse, donc souvent les anciens coureurs de béton, et les gens comme moi, adeptes de courir vraiment à la sensation. Donc on a toutes les séances, on ces trois paramétrages-là, ces trois possibilités. Sachant que on ne peut pas penser vitesse par kilomètre quand on fait du trail, c'est impossible. Et c'est vrai qu'on voit souvent les coureurs issus du béton, le nez un peu focalisé sur la montre, en train de garder leur temps au kilo, alors que c'est pas possible. Tu vois, il y a le dénivelé qui joue. Il y a le terrain, la nuit, le jour, le temps. Il y a trop de paramètres qui font que. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on se connaît, plus on est capable d'estimer à peu près son temps sur certaines portions, sur certaines montées, sur certaines descentes. Mais c'est vrai qu'il faut à un moment donné accepter qu'on ne peut pas être vraiment sur le temps au kilo et accepter d'être parfois à la sensation, sur des montées, sur des descentes, parce que le terrain est toujours changeant et différent. Mais par contre, à l'entraînement, tu peux quand même toujours continuer de travailler avec la VMA. Toi, tu as la VMA sur le plat classique. Il y a aussi la VMA ascensionnelle, qui est donc une donnée sur laquelle tu peux travailler ta vitesse, mais vraiment que en côte. Donc, pour vraiment un peu les fanas des chiffres et des vitesses au kilo, on peut. Donc, on peut aussi travailler, faire une préparation de travail avec sa VMA. Mais on peut aussi la faire avec sa fréquence cardiaque ou, comme moi, à la sensation. Moi, tu vois, ça fait 10 ans que je travaille à la sensation, même si, tu vois, Rico, il se bat à chaque prépa pour que ce soit un petit peu plus structuré d'un point de vue paramètre.
Et c'est pour ça qu'on a justement voulu, je ne sais pas si c'est trop long, Bertrand.
Non, on a le temps.
C'est pour ça qu'on a voulu, encore une fois, lorsqu'on a écrit ce bouquin, vraiment s'adresser à un maximum de personnes, parce que depuis des années, on voit qu'il y a des adeptes de VMA, de FC et de sensation. Et donc on a voulu s'adresser à un maximum de personnes, mais je crois qu'il faut séparer vraiment deux choses, c'est la vitesse sur les entraînements. Donc on va choisir l'un des paramètres sur les entraînements sur lequel on a besoin. Si on court sur un tapis, ce qui est intéressant avec un tapis, c'est que si on doit faire 10 bornes à 12,5, eh bien on place la vitesse à 12,5 et on sait qu'on a fait les 10 bornes pile à 12,5, donc ça c'est bien. Et puis ensuite il y a la notion en course. C'est vrai que quand tu regardes un résultat de course sur un ultra et que tu vois une vitesse moyenne de 4,5, moi je connais des néophytes qui m'ont dit « putain, mais il ne va pas vite ». Non, il va à 4,5 en moyenne, mais il peut descendre à 17 ou 20 et il peut faire des ascensions à 3. Donc voilà, donc la moyenne en course, on ne peut vraiment pas la quantifier et travailler dessus. Par contre, à l'entraînement, lorsqu'on va travailler l'endurance, eh ben, il faut paramétrer l'endurance. Lorsqu'on va travailler la vitesse, eh bien, il faut paramétrer la vitesse. Et lorsqu'on va faire des exercices de renfort, etc., eh bien, on va paramétrer également tous ces exercices avec des séries, des reps, de la récup, etc. Donc, l'entraînement, on paramètre. La course, il y a tellement de facteurs changeants qu'une fois, tu fais une TDS sous 40 degrés et une fois, tu vas faire une TDS, il va faire 10. Donc, c'est totalement différent.
Mais en fait, alors, la question, elle est beaucoup posée parce que ce qui fait peur dans le trail, c'est les fameuses barrières horaires qu'on a sur certaines courses. Et on se dit, mais comment je fais pour y échapper, etc. C'était alors l'épisode qu'on a fait avec Stéphane sur la M extrême de Montreux. Ce qu'il expliquait quand même, c'est que lui, il était à toujours regarder la barrière horaire, s'il allait la passer, pas la passer. Alors, quand on est un coureur qui va vite, hein, qui finit toutes les courses comme ça, peut-être qu'on la regarde moins, la barrière horaire. Mais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui a été frustré parce qu'il était arrêté au 40e kilomètre d'un trail de 56. Et donc, ce qui veut dire que pour des coureurs lents, hein, comme on est nous, la barrière horaire, c'est quelque chose qui est un facteur qui est important. Et c'est vrai qu'on se dit, mais à quelle vitesse je dois courir, à quelle vitesse je dois m'entraîner pour passer cette fameuse barrière horaire et avoir le droit de finir ma course.
Ouais. Alors moi, je trouve ça excitant, cette barrière horaire, parce que si on est dans le haut du peloton, on est excité par l'avant, par la barrière horaire entre guillemets, de l'avant, c'est-à-dire le record, finir dans les 10 premiers, etc. Et si on se retrouve dans l'arrière du peloton, je trouve que c'est excitant aussi de se battre contre cette barrière horaire, contre soi-même, parce que voilà, il y a quelque chose qui nous pousse derrière. Et donc moi, je trouve ça assez stimulant en fin de compte. Après, quant à la gestion dans la course, moi, j'ai fait quelques trails, mais vraiment petits par rapport à Antoine. On peut pas, enfin, courir par rapport à cette barrière horaire. C'est pas comme ça qu'il faut envisager un trail. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de modestie lorsqu'on s'engage sur un trail. Parce que pour l'avoir vécu, tu peux même sur des petites distances avoir des hauts et des bas, des fringales, des voilà. Tu sais jamais au final si tu vas finir un trail. Mmh. Un 10 km, tu sais si tu vas le finir, à part vraiment un gros coup de chaud ou une vraie blessure. Mais un trail, tu as toujours cette notion d'abandon qui est là, blessure, conditions climatiques, voilà. Donc se dire, bah, je vais courir à tant de kilomètres heure pour le finir par rapport à la barrière horaire. C'est pas comme ça qu'il faut l'envisager, sauf si tu te lances un grand défi, la plus grosse barrière horaire, je trouve que c'est celle de la Diago, où, enfin, Antoine, il l'a vécu, mais il a vu des gens vraiment assez loin, et ce qui, voilà, c'est lui, je pense, qui en parlera le mieux. Mais voilà, moi, je pense que pour moi, c'est stimulant.
La barrière horaire. C'est vrai qu'en fonction des courses, la barrière, elle est plus ou moins, on va dire, compliquée. Toi, sur la Diagonale des Fous, il y a quand même une amplitude qui est quand même plus large que sur l'UTMB, par exemple. Mmh. L'UTMB, plus ça va, plus la barrière horaire se réduit et plus ça crée une course rapide. Non, moi, je pense qu'il faut garder, comme on disait au début, le principe de progressivité, tu vois. C'est ce qu'on explique, nous, d'ailleurs, dans notre livre. Il faut y aller au début sur des trails courts, des 10, des 20. Il faut les valider. Voir ce qui va, voir ce qui ne va pas. Si ça va, et ben après, on passe sur du 20-40. Vraiment y aller par étapes et ne pas sauter les étapes pour éviter justement d'avoir cette mauvaise aventure de jouer un peu trop près avec les barrières.
La vitesse quand même, parce que pour terminer cette histoire de vitesse, parce que ça préoccupe beaucoup les gens quand même, hein, cette histoire, j'ai d'autres questions. Finalement, sur un trail, on va dire, pour débuter, je veux faire un trail autour de entre 20 et 30 km, je dois m'entraîner finalement sur quelle vitesse? Je dois privilégier une endurance, je dois quand même travailler de la VMA, travailler un peu ma vitesse, ou je m'occupe d'abord de le finir en travaillant mon endurance?
Alors, ce qui est important déjà, c'est de développer son endurance, okay, donc la filière aérobie. En fait, c'est son coffre. Tu vois, plus tu as un coffre qui va être important, bah déjà, plus tu vas pouvoir t'entraîner. Donc ça, déjà, c'est le premier facteur. Plus tu es endurant, plus tu es capable d'engranger du volume, plus tu vas pouvoir être capable de t'entraîner. Après, c'est vrai que plus les trails vont être courts, et bah, plus on va avoir tendance à travailler la vitesse. Donc souvent, on va utiliser le fractionné, soit du fractionné long et ou du fractionné plus court. Donc c'est vrai que plus le trail est court, bah plus on va avoir tendance à travailler la vitesse et un petit peu moins le volume. Alors que les gens qui se lancent sur des épreuves longues et techniques, eh bah on va surtout travailler le volume. Et dans un deuxième temps, la vitesse viendra. On ne peut pas demander à un corps d'avoir un gros débit s'il a un tout petit réservoir. Donc c'est vrai, ce qu'il faut noter en premier, c'est qu'il faut développer son coffre. Et en fonction après de la distance qu'on choisit, eh ben on oriente plus ou moins la prépa. Mais c'est vrai que sur des trails plus ou moins courts, comme tu disais, entre 10 et 30 km, ben c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de séances de vitesse qui peuvent se rapprocher de certaines séances de vitesse de semi ou de marathon.
Oui. Moi, je pense, excuse-moi Bertrand, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent là-dessus, sur la vitesse, à quelle vitesse je dois courir, je vais le faire à 11,5, etc. Il y a un autre paramètre qui est extrêmement important, c'est le dénivelé qu'a la course. Mmh. Et justement, sur le livre, on a créé donc différentes tranches de course avec trois tranches de dénivelé. Donc des courses à faible dénivelé, des courses à dénivelé moyen et des courses à dénivelé élevé. Tu vois, tu prends la 6000D, qui est une course assez réputée. Eh bien, 6000D accumule quand même 6000 mètres de dénivelé pour une course qui fait 63 km. Donc, c'est quand même assez important. Tu ne prépares pas cette course-là de la même manière qu'un 60 km que l'éco-trail de Paris, par exemple. Tu vois, l'éco-trail de Paris, C'est 72, c'est ça?
L'équivalent
de la simulée en distance, c'est 72, je crois.
Il y a même pas 2000 mètres de dénivelé pour 15 km de plus.
Donc c'est vrai que l'éco-trail de Paris, ça va être un trail orienté vitesse, alors que la 6000D, ça va être un trail orienté dénivelé. Donc tu n'as pas les mêmes propriétés, tu n'as pas le même entraînement, tu ne prépares pas de la même manière un éco-trail et la 6000D. Donc la vitesse, pour moi, c'est vraiment un paramètre qui ne doit pas forcément rentrer en compte tout de suite. C'est plutôt la nature de la course. Est-ce qu'il y a du dénivelé ou pas? Est-ce qu'on est sur du chemin roulant ou est-ce qu'on est sur du skyrunning? Et ça va déterminer ton entraînement. Et sur le bouquin, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. J'espère qu'en tout cas, on l'a bien fait. Mais c'est bien démontrer aux gens que d'abord, on note la course, on l'analyse et après on fait son programme.
D'ailleurs, ça amène une question qui est intéressante, cette histoire de dénivelé, c'est les pentes. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir comment on fait pour connaître les pentes, les pourcentages de pentes. Est-ce qu'il faut trouver des pourcentages qui se rapprochent ou pas? Ou est-ce que finalement il y a des pourcentages qui sont difficiles à reproduire en ville? Ou alors est-ce qu'en ville, finalement, on n'aurait peut-être pas tendance à s'entraîner sur des pentes qui sont plus pentues que ce qu'on pourrait trouver dans certaines courses de trail?
Ça c'est une bonne question. Nous, c'est vrai que on a moi je m'entraîne beaucoup sur tapis parce que c'est plus facile par rapport à mon emploi du temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les tapis peuvent monter jusqu'à 25%. Donc on n'a pas ce souci-là de trouver une trop petite côte. C'est vrai qu'après souvent en ville, et on est sur des dénivelés qui sont quand même un petit peu plus faible. Donc nous, ce qu'on a choisi dans ce cas-là, c'est très sous forme de la répétition. Répéter beaucoup de fois une petite côte plus ou moins longue pour accumuler du dénivelé. Donc après, ça dépend vraiment déjà du lieu où on habite. Nous, c'est vrai qu'on a privilégié donc soit la répétition des côtes ou alors travailler sur le tapis pour justement aller explorer des pourcentages qu'on va pouvoir retrouver en course. Mais c'est vrai que quand on analyse un petit peu c'est ce qu'on fait maintenant, on ne le faisait pas avant, on analyse en premier donc la course, tu vois, on regarde un peu le nombre de dénivelés, la longueur des côtes, et après en fonction de ça, on calibre la préparation, mais on s'attache aussi beaucoup à la durée de l'effort. Toi, si une côte va faire une demi-heure, une heure, 1h30, bien, on va avoir de dénivelé. On sait qu'une côte où tu prends 100 mètres de dénivelé tous les kilomètres, ça commence déjà à être un beau morceau. Et c'est vrai que ça, en ville, c'est compliqué naturellement de le retrouver. Donc là, on utilise le tapis ou sinon des contraintes, comme on en parlait tout à l'heure. On se laisse un petit peu, toi, gilet lesté, des petites bouteilles dans le sac à dos, des élastiques, où il y a un copain qui va un peu nous tirer, pour un petit peu nous créer une résistance. Voilà, on essaie de mettre des choses comme ça un petit peu en place pour reproduire la difficulté d'une côte.
Bon, et tant que j'y ai, j'avais une autre question, c'était sur les bâtons. Est-ce qu'il faut avoir des bâtons pour faire du trail et monter? Et comment vous entraînez avec des bâtons? Parce que alors, sur tapis, les bâtons, c'est pas la peine. Finalement, est-ce qu'on vous croise à Montmartre avec des bâtons?
Bon, là, c'est encore, tu touches notre deuxième... Deuxième point de discorde. Moi, je reste dans ma logique un petit peu pas minimaliste, mais de partir avec le moins de choses possible. Donc, je suis un anti-bâton. Ça, c'est un choix personnel. Et ma seule façon de le justifier, Haricot, c'est de dire, tu vois, je peux pas aller à Montmartre avec mes bâtons et je peux pas utiliser mes bâtons non plus à Paris. Après, c'est vrai que Rico, lui, il est persuadé, et je pense qu'il a raison, que je pourrais gagner beaucoup de temps en utilisant les bâtons, mais par contre, il faut savoir vraiment les manier. Sinon, tu dépenses quand même beaucoup d'énergie, ça te demande une grande attention pour au final pas grand chose. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais utilisé les bâtons et je compte pas les utiliser.
Non, mais les bâtons, il y a plusieurs études qui démontrent qu'on peut gagner jusqu'à 15%. Ou économiser 15% d'énergie si on utilise des bâtons. Donc c'est vrai que avec Antoine, on a toujours, tant qu'il progressait, on gardait notre méthode. Dès qu'il commençait à stagner un peu, je me remettais en question, on changeait les entraînements et puis on rajoutait un truc. Donc parfois ça a été sur l'hygiène de vie dont on parle également dans le livre. Donc ça a été l'alimentation, on a ciblé le travail sur l'alimentation, on a ciblé le travail sur le renforcement musculaire, donc comment avoir des cuisses fortes et en même temps endurantes et rapides. donc en faisant de la musculation. On a travaillé sur la blessure, etc. Et c'est vrai que là, il atteint certainement un petit plateau, donc il peut continuer encore à progresser parce qu'il y a une notion de poids encore à gérer. Mais c'est vrai que là, on atteint un plateau où maintenant, il va falloir réfléchir à des petits outils, des petits ajustements, dont parfois peut-être les bâtons sur certaines courses. Ou s'il veut gagner, s'il veut rentrer dans un top 100 encore, comme il a fait l'année dernière à l'UTMB, s'il veut aller gratter encore des places, bah, tous les gens qui sont devant lui ont des bâtons. Tous les gens qui sont devant lui ont ci, ont ça. En fait. Donc voilà, on est en train de, je suis en train de négocier, hein, c'est dur. Mais non, les bâtons, c'est intéressant. Par contre, comme il le dit, c'est sûr qu'aller s'entraîner à Montmartre ou au Bois de Boulogne avec des bâtons, moyen. Voilà. Alors, il ne faut pas acheter des bâtons parce que tout le monde achète des bâtons. Il faut acheter des bâtons si on se sent bien avec, si on sent qu'on a des chevilles fragiles, parce que ça aide aussi sur les descentes, si on a des faiblesses musculaires. Mais comme on a toujours fait de la musculation, du renforcement, je préfère le terme de renforcement musculaire, Antoine, sur des descentes ou sur des montées, il n'a jamais eu de problème de stabilisation, de grosse fatigue musculaire due à un manque de tonicité. Donc les bâtons, voilà, ils ne viennent pas là comme béquille pour faire une descente ou faire une montée. Il a toujours réussi à compenser avec ses cuisses.
D'ailleurs, alors quand on parle de musculation, de renforcement musculaire, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a parlé des cuisses, on a parlé de la proprioception des chevilles. Donc là, on dit bon, on va courir avec les jambes, c'est logique. Mais il y a le reste du corps.
Exact.
Là, donc c'est vrai qu'on travaille les cuisses, mais il y a toute une autre partie où c'est la sangle abdominale. Okay, parce que la sangle abdominale, c'est ce qui va te permettre d'avoir un bon équilibre. Si tu es bien gainé, tu vas avoir un bon équilibre. Si tu as un bon gainage, ça va t'éviter beaucoup de douleurs, notamment au niveau du dos. Et aussi, on fait un travail de renforcement musculaire au niveau du dos, dans sa globalité, essentiellement quand même axé sur de la posture, pour avoir une bonne posture. Parce que déjà, si tu as une bonne posture, tu vas consommer moins d'énergie. Et puis on sait que dès qu'on est fatigué, c'est la posture qui en pâtit. Tu vois souvent les coureurs dans les côtes totalement voûtés, tu vois. Moi, comme je dis toujours, mes premières douleurs, elles viennent au niveau du dos, tu vois, à force de pousser un peu avec mes mains sur les genoux. Je pense que j'ai pas de bâton, je suis totalement voûté. Donc on fait un gros travail de renforcement musculaire sur le dos, et j'invite vraiment les coureurs à le faire. Déjà pour avoir une bonne posture. Donc si tu as une bonne posture de course, tu consommes moins d'énergie, tu es plus efficace et surtout tu as moins mal au dos rapidement. Et un bon gainage pour la stabilité en course et aussi éviter le mal au niveau des lombaires notamment.
Je pense qu'avant d'acheter une paire de bâtons, il vaut mieux travailler sa posture et faire du bon renforcement musculaire. Voilà. Et parce que les bâtons sont trop souvent utilisés comme béquilles pour soulager une faiblesse qu'on a, etc. Et non pas comme un outil de performance. Tu vois ce que je sais pas si je suis assez clair.
Si, ouais. Mais je vois bien les gens, parce que moi je vois sur les petits trails que je fais, j'en vois certains courir avec les bâtons et qui finalement, on se demande à quoi ça leur sert vraiment en plus. Des fois, on a l'impression qu'ils se fatiguent plus qu'autre chose. Mais on se dit peut-être qu'ils préparent d'autres choses, peut-être qu'ils préparent des grandes distances et qu'il leur faut s'entraîner avec des bâtons parce qu'ils arrivent de Paris et qu'ils n'ont peut-être jamais eu l'occasion de mettre les bâtons. Bon, je me moque un peu, mais.
Tu as raison, utiliser des petites courses pour s'entraîner avec des bâtons, c'est intéressant, exact. Ouais.
D'ailleurs, tant qu'on y est sur les histoires de courses, etc., il y a quand même une question, mais on revient sur cette question des montées et des descentes. Quelqu'un qui me dit, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est de monter ou c'est de descendre ? Moi, j'ai ma réponse, hein, mais la vôtre.
Avec l'expérience, ça varie. Non, ça varie en fonction des courses, j'ai envie de te dire, et de la technicité du terrain. Non, moi, je pense que quand on est un vrai coureur, toi, quelqu'un qui a justement une bonne VMA, une bonne vitesse, il va vraiment pouvoir s'éclater en descente. Tu vois ? Et quand on est quelqu'un comme moi qui, à la base, n'est pas coureur, toi, judoka, plutôt trapu et plutôt puissant, moi, je suis quand même plus à l'aise dans les montées. Tu vois ? Je pense que les plus grands écarts, j'en suis sûr, se font dans les descentes. Tu vois ? Parce que dans les montées, même quand il y a un gros pourcentage, on est tous humains, on a tous deux jambes. Bon, des fois, il y a les bâtons pas, mais c'est pas dans les montées que les plus gros écarts vont se faire. Par contre, dans les descentes, quelqu'un qui a un bon pied et qui a une super VMA, là, lui, il peut vraiment, vraiment creuser l'écart. Et d'un point de vue musculaire, les descentes font quand même plus mal et sont quand même plus traumatisantes, notamment au niveau des genoux, parce qu'on se retient un petit peu en permanence. Que les montées.
Alors je reviens sur la prépa physique des montées et des descentes. C'est pas du tout les mêmes choses. On travaille pas de la même manière. Sur une descente, si tu veux aller vite et gratter des places, alors là on parle de perf, hein, on parle de performance, mais Antoine, sur certaines courses, voilà, on travaille là-dessus. Mais sur les descentes, il faut être très concentré. Les jambes vont très vite, donc les appuis vont très très vite. Et si on ne pose pas le pied au bon endroit, on risque justement l'entorse, la blessure. Donc, c'est un vrai travail de concentration. C'est là où le travail de posture, de gainage, comme disait Antoine juste avant, a toute son importance. Sur les montées, si c'est une montée longue, pentue, etc., on n'a pas forcément besoin d'avoir une grande concentration. On est concentré sur son souffle, sur ses genoux, on avance, on met un pied devant l'autre, voilà. Par contre, la descente, il faut être très lucide. Donc, une descente en début de course, ça va. Une descente en fin de course sur un ultra, c'est psychologiquement, c'est terrible. Donc, on va pas avoir la même approche. Voilà.
Et c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs se rappeler qu'il est important de gérer son énergie. Hein, les montées, on gère l'énergie aussi pour avoir de la force pour relancer quand on arrive en haut si on a un peu de plat et puis descendre de manière forte et lucide. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Hein, dans les épisodes précédents, on avait Johan Stuck qui avait avoué qu'il avait eu de gros problèmes en descente, qu'il se faisait doubler dans les descentes et que ça le gavait fortement. Donc, il s'entraîne beaucoup en descente. Et mon entraîneur, un de mes entraîneurs, m'a dit l'autre jour, la montée gagne toujours. Il a dit, de toute façon, tu peux toujours essayer de courir, au bout d'un moment tu t'arrêteras de courir parce que ça monte trop raide. En revanche, il m'a dit, effectivement, dans les descentes, c'est là où tu fais les plus gros écarts. Et il me dit, dans certaines montées, il n'y a que 4 minutes d'écart à l'arrivée, mais en bas, il y a énormément d'écart. Et ça fait partie, effectivement, des gens. Les gens ne le voient pas de l'extérieur quand ils n'en ont pas fait beaucoup, mais ça ne rend pas vraiment compte, en fait.
Ouais. Contrairement au Tour de France où les plus gros écarts sont sur la montée.
Oui, c'est ça. Mais bon, au Tour de France, il y a quand même un doute de savoir s'il n'y a pas un petit moteur dans le...
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu des contrôles un petit peu difficiles l'autre jour. On ne va pas revenir sur cette polémique parce que si jamais des cyclistes nous écoutent, ça va être compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie. Hein, et c'est vrai, l'inconnu du trail hein, pour beaucoup de gens. Hein, c'est quand on ne sait pas, quand on vient de la route, même si on a fait des petits, même des marathons un peu vallonnés, des choses comme ça, etc., on ne se rend pas compte hein, que les montées, des fois, nous stoppent hein, en vitesse. Moi, j'ai le souvenir d'un trail nocturne où ils nous ont dit qu'on a une barrière horaire de 2 heures pour faire 12 km, et on a rigolé au départ, et puis on est passé pour 3 minutes. Parce qu'on est monté à 19 minutes du dernier kilomètre, on ne montait tout simplement pas. Voilà, on a l'impression qu'on était au ralenti total. Donc c'est vrai que ceux qui n'ont jamais fait trail ne se rendent pas vraiment compte, et cette notion-là, on n'arrive pas à savoir comment on dose son effort, en fait, tout simplement.
Alors, ouais, vas-y,
ça c'est vraiment dur. Je pense qu'il faut vraiment vraiment bien se connaître, bien connaître ses points forts, bien connaître ses points faibles. Moi, tu vois, j'ai tendance à faire toujours les mêmes erreurs, tu vois, l'excitation de la course, le départ, l'envie de performer, je pars souvent très vite. Je prends toujours un petit coup de bambou au bout de quelques heures de course, et moi je suis un peu après le spécialiste
un diesel,
tu vois, un peu les remontadas. Tu vois, aussi dans la deuxième, sur le deuxième jour ou la deuxième nuit où je reviens. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment connaître ses points forts, vraiment connaître ses faiblesses. Mais c'est vrai que c'est quand même une notion qui est vraiment difficile à gérer. Tu vois, même après, tu vois, c'est quasiment 10 ans que je fais du trail, qui est quand même c'est difficile. Et c'est vrai que généralement, ceux qui gèrent le mieux ça, eh ben, c'est les trailleurs qui sont un petit peu plus âgés. Tu vois, quand même les trailleurs qui ont 50, 55 ans, tu vois, ils gèrent super bien, ils ont leur montre. Ils calculent, tapent sa bip, enfin tu vois, ils sont. Je trouve que vraiment c'est un sport qui, avec l'âge, tu as des coureurs de plus en plus forts dans l'organisation justement de leur course, toi dans la stratégie de leur course. Et nous, c'est vrai, on est un peu encore un peu foufou.
Pour l'anecdote, on a fait un trail un jour qui est à côté de Paris, qui s'appelle la Sans Raison. Et donc c'était un 14 km je crois ou 11, et j'étais avec un ami qui voulait se mettre au trail pour se tester, et c'était un ami qui venait de la route, donc qui avait fait des semis et des marathons. Et il est venu fleur au fusil en se disant que s'il était marathonien, une course de 14 km, ça ne lui faisait pas peur. Et justement, il a pris une volée, il a pris une belle claque et il a fini derrière, tout le monde. Et à l'arrivée, il a dit, mais plus jamais j'aborde une course comme ça, un trail comme ça, parce que voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est marathonien et qu'on peut finir un marathon en 3:30, 3:45, qu'on peut finir à une certaine vitesse, évidemment, qu'on peut finir à 11 ou 14 km sans l'avoir abordé, préparé. Et là où il a pris justement les volets, comme on dit, c'est sur les deux grosses côtes qu'il y avait sur cette course, où il a abordé à 10 km/h le début de la côte et puis il a fini à 3. Quoi. Donc voilà, Antoine, je pense qu'il faut bien étudier le parcours. Sur un trail, contrairement à un marathon, où on sait que c'est plat et on se bat contre un chrono, un trail, je pense qu'il faut étudier le profil, étudier le parcours, voir où se situe, comme sur un 100 miles. Donc, c'est un vrai travail d'approche. Et puis, je trouve que c'est toujours intéressant, voilà, d'aborder la course en sachant qu'il y a une côte de 2 km. Il ne faut pas s'enflammer au début sur les 200 premiers mètres. Et tout ça, c'est à ce moment-là, comme on l'a mis sur le livre, la sensation est importante. C'est pour ça qu'on a fait ces échelles de sensations.
Alors, j'avais une dernière question, c'était sur l'alimentation. Et, j'ai eu une vision tout à l'heure. J'étais en train de préparer à manger, comme ça, avant qu'on enregistre l'épisode. Et j'ai dit, quand on s'entraîne en ville, si on a faim, il y a toujours une boulangerie. Ou un truc, enfin, on trouve une fontaine d'eau, on trouve des choses comme ça. Si on part sur la diagonale des fous, si on part sur l'UTMB, on part avec forcément à gérer son alimentation sur plusieurs heures. Est-ce qu'on arrive vraiment à préparer cet aspect-là en s'entraînant en ville? Alors qu'en ville, on a dit, oh, il y a toujours un truc, ou même le métro pour rentrer, j'ai envie de dire, à Amy, si je suis trop fatigué, vous voyez, parce que c'est aussi. Ouais, ou avant il y avait le Vélib aussi, maintenant je sais pas comment on l'appelle, etc. Mais il y a quand même cet aspect-là aussi. Donc il y a l'alimentation, l'aspect mental de se dire, bon, bah, on part aussi pour. C'est pas tout à fait la même chose de partir 30 bornes dans Paris et 30 ou 40 bornes sur un trail, quoi.
Ouais, mais t'as raison, et on le dit justement sur le. Pour préparer un trail, quelle que soit la distance, il faut vraiment faire preuve de bon sens. Et on sait que si on a des ravitaux, Antoine m'a toujours dit que il y a des courses comme l'UTMB où tout est fait pour que le coureur n'ait pas trop de dommages. Il y a des ravitaux un peu partout, etc. Il y a certains trails comme à Oman l'année dernière où c'était très très compliqué. Et pour ça, il faut s'entraîner, donc il faut se forcer, même s'il y a un métro ou une boulangerie à tous les coins de rue. Il faut s'entraîner à savoir ce qu'on peut avaler, ce qu'on peut manger, ce qui passe, ce qui ne passe pas, parce que voilà, Antoine, il l'a fait sur la longueur, sur l'expérience, mais il y a des choses qu'il prenait au début, bah, qui ne passaient pas, donc les petites barres un peu chimiques, les boissons, voilà, il l'a découvert sur les courses, parce que finalement, ça passait. Plus de découvrir sur les courses, il vaut mieux le découvrir sur les entraînements, donc se tester.
On le fait sur les entraînements, et puis on le fait aussi, surtout aussi pendant la préparation, parce que tu vois, l'alimentation, c'est notre carburant. Donc, si pendant la préparation, on mange mal, forcément, ça va avoir un impact sur l'entraînement lui-même et sur la récupération après l'entraînement. Je voulais juste rajouter qu'on parle beaucoup de l'hygiène de vie dans le livre, mais ce qu'il faut noter, c'est que le point le plus important dans l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Enfin, on a interrogé des amateurs, des coureurs professionnels, Aurélien Collet, qui fait la préface du livre, qui a déjà fait 3e à Diagonale des Fous, nous confirme aussi que c'est vraiment le sommeil, le point le plus important dans la préparation. C'est vraiment à ce moment-là qu'on recharge les batteries et qu'on répare un petit peu tous les micro-traumatismes ou tous les dommages qui peuvent être liés à l'entraînement. Et surtout, c'est là qu'on accumule les bénéfices de l'entraînement pour après arriver à un niveau meilleur. C'est vrai que l'alimentation est vraiment, vraiment important, mais nous, on a quand même placé le sommeil encore au-dessus, quoi.
Alors, bah on va rentrer un peu dans le détail, allez, parce que les auditeurs aiment bien les tout petits détails comme ça. En temps de sommeil, c'est quoi bien dormir suffisamment?
Alors,
Physiologiquement, il y a des cycles.
Ouais.
Il y a des cycles naturels, voilà. Par exemple, la restructuration des cellules du foie sont entamées à partir du troisième cycle. Donc, si on dort moins de 3 heures, ça ne marche pas. On va droit dans le mur. Ensuite, passer le troisième cycle, donc qui est un cycle, ça peut durer environ une heure et demie. Voilà, il faut dormir un minimum de 5 heures. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de plus. Puis après, il y a des gros dormeurs. Donc ça, c'est voilà, c'est à chacun, chacun le gère un peu comme il veut. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un sommeil régulier, pas trop agité, un sommeil profond. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec les montres modernes, les montres connectées, on a souvent un petit récap du sommeil qui nous dit le matin si on a eu un sommeil profond, un sommeil léger, donc un sommeil réparateur. Et si on a du mal à dormir, il faut vraiment prendre ce problème en compte et travailler avec des spécialistes et surtout pas aller dans la médicamentation. Voilà, parce que ce qui est antidépresseur, etc., nous, on n'est pas trop là-dessus. Nous, on n'aime pas trop et ce n'est pas la bonne solution.
Alors, on a parlé tout à l'heure des chaussures, donc Salomon, etc. Est-ce que, tiens, quelqu'un qui se lance comme ça, est-ce que, alors les chaussures, c'est vraiment un cas particulier, est-ce qu'en matériel, est-ce qu'il y a des marques recommandées en disant, voilà, on peut y aller les yeux fermés sur les vêtements, sur les chaussettes, ou je sais pas quoi, parce que c'est ça, en fait, ce que les gens adorent aussi, c'est savoir un petit peu les petits détails de qu'est-ce qui fait avec quoi vous courez, quoi, les uns les autres.
Alors moi, je cours tout en Salomon, chaussettes, chaussures, sacs, tu vois. C'est une très bonne marque, c'est quand même une marque chère, mais par contre, les produits sont de qualité et durent vraiment longtemps. Tu vois, ça faut pas, on peut pas le nier. C'est vrai qu'on souvent on crache un petit peu sur certaines marques avec des prix. Très cher, ce qui fait qu'on a des trailleurs des fois qu'on court 1500, 2000 euros sur eux de fringues et de montres. Mais par contre, tu vois, moi, mon Camelback Salomon, mon premier m'a tenu quasiment 8 ans. Tu vois, il a fait avec tous mes trails longs, mes trails courts, mes entraînements. Donc, non, ça reste vraiment, vraiment, de la bonne qualité. Tu vois, après aujourd'hui, t'as Decathlon qui fait aussi des très, très bonnes choses, tu vois, à des prix. Vraiment inférieur. Moi, je pense qu'il faut vraiment tester. C'est comme les chaussures. Tu vois, il y en a, ils ne sont pas à l'aise avec le sac Salomon parce que le système de serrage ventral, ça ne leur convient pas. Je pense qu'il faut vraiment tester. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Moi, je sais que je suis chez Salomon et que ça me va très bien pour l'instant, aussi bien sur les chaussures que sur les vestes Gore-Tex, les shorts ou encore le Camelback. Faut tester, c'est comme tout, ça vient pas du premier coup, ça viendra pas dès la première course, il y aura toujours des trucs ce sac là il m'irrite, tu vois, ça dépend de la morphologie, voilà, ça dépend de plein de choses. Je pense que c'est vraiment à essayer, mais c'est vrai que bon, les chaussures, c'est quand même pour moi le plus important, ce qui peut vraiment causer des tracas et des dégâts. Et après, mais voilà, le reste, faut essayer. Le sac, faut l'essayer. La veste, faut l'essayer. Mais tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'alimentation, ça se teste avant. Ouais. Avant le jour J. Et pas le jour J, parce que le jour J, y a déjà assez d'incertitudes pour en plus s'en créer par rapport à son matériel. Et puis, je trouve aussi avoir un matériel agréable et plaisant, ça donne un peu de baume au cœur quand même. Oui. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien avoir une belle tenue. Ça met un petit peu de baume au cœur. Voilà. Et à l'aise dans ses baskets et dans son short.
Il reste parisien quand même un peu. Hein.
Voilà, c'est mon côté un peu parisien.
Ouais, il y a un entraînement dans les beaux quartiers qui se fait de temps en temps pour aller voir aussi les vitrines. Non, mais ça me fait rire parce que je leur dis, j'ai lu la biographie de Grégoire Chevignard, qui raconte un petit peu ses entraînements, qui découvre des rues, etc. Mais moi, quand j'ai fait le marathon de Paris, je me suis rendu compte qu'on était place Vendôme et je me suis même pas rendu compte qu'on l'avait traversé. Donc, je suis pas du tout, je regarde pas du tout ça. C'est vrai, on aime bien les tenues, les petits trucs comme ça, etc. Mais c'est vrai que l'histoire du sac, c'est pas un truc à négliger parce que, et on avait parlé avec Stéphane qui avait fait sur la M Extreme, il disait au bout d'un moment, le sac, il faudra qu'il le change, quoi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, on n'est pas à l'aise et quand on part avec pour 36 heures, Si on fait un petit trail d'une heure, bon, il fait du bruit, il nous énerve, ça va. Si on part 3-4 heures, déjà, ça va moins. Alors, imaginons, si on allonge les distances, ça va aller beaucoup, beaucoup moins. Donc, c'est pas un truc à prendre à la légère, mais vraiment le truc. Et notamment parce qu'il y a des marques. Moi, je sais que, par exemple, il y a des produits qui vont pas du tout, parce que ça tient pas assez, ça descend pas, etc., qui sont pourtant des grandes marques, etc., et des fois, bah, on n'est pas bien avec, et donc ça, le test, c'est vraiment un truc qui est important. Tant qu'on est un peu dans les indiscrétions, allez, s'il y a un truc, la question, c'est toujours le ravitaillement en course. Est-ce que vous êtes, alors je vous ai dit les gels pas trop, hein, les trucs comme ça, est-ce que vous avez des astuces, une recette secrète d'une boisson d'effort, ou pour se réhydrater, ou est-ce que là aussi, il y a une marque particulière?
Ça coûte très cher, les petits secrets.
Moi j'ai essayé beaucoup de choses. Toi, j'ai un petit peu essayé tout, les gels, un peu toutes les marques, les fameux gâteaux magiques d'avant l'effort, tous ces trucs-là, j'ai essayé. Et au final, moi, ça me faisait plus de mal gastrique qu'autre chose. Donc, au fur et à mesure, bah, on s'est un peu attardé vraiment sur le ravitaillement, sachant que moi, je ne suis pas un gros mangeur. Mais on est quand même resté sur des produits, moi je reste sur des produits sucrés simples, tu vois, vraiment très simples, des compotes, des barres de céréales pour le sucré, du miel, tu vois, j'ai la chance d'être suivi par une marque bretonne qui s'appelle Happy Run, donc qui me fournit des super petits gels de miel et du pain d'épices, donc ça me va très bien, donc je reste vraiment sur une alimentation très naturelle sur le sucré. Avec un petit penchant, allez, on va le dire quand même, pour des petites fraises tagada, souvent au sommet, tu vois, pour me récompenser.
C'est pour ça que ça coûte cher, les secrets. Donc,
voilà. Ouais, celui-là, il coûte cher.
J'ai toujours un ou deux petits aliments kiff dans le sac, donc à portée de main, bien sûr. Donc, tu vois, c'est les petites fraises tagada ou le sneakers. Tu vois, c'est mon petit péché mignon pendant les courses. Et en salé, je reste sur des choses pareilles, aussi très basiques, tu vois, des sandwichs, du fromage, des tucs, voilà, vraiment, du 4 quarts pour le sucré, mais voilà, aucun produit transformé, parce que c'est comme ça aussi que je m'alimente dans la vie de tous les jours.
Ouais, alors c'est ça justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est que, en gros, ce qu'on va manger pendant la course doit ressembler majoritairement à ce qu'on mange au quotidien dans la vie classique. Voilà. Et si on mange plutôt nature, plutôt non transformé, etc., si on passe sur des gels ou des boissons un peu chimiques, l'estomac ne va pas se dire « Tiens, je vais faire une exception, je vais l'accepter aujourd'hui. » Non, ça risque de faire pas mal de dégâts et des dégâts gastriques sur une course, ça peut être compliqué. Et donc inversement, si on a l'habitude de manger comme ça, on peut se permettre. Voilà. Donc pareil, comme tu disais tout à l'heure, il faut tester. Moi, je voulais revenir sur les tucs. Souvent, on mange des tucs. Il y a des tucs au ravito. C'est pas pour faire de la pub, mais il y a des tucs. Moi, je comprends pas trop le délire entre guillemets tuc au ravito. Alors, c'est pour le sel, on le sait, mais il y a un truc qui est important, on perd beaucoup d'eau sur un trail, on perd beaucoup, avec de l'eau, on perd des oligo-éléments et du sodium, donc du sel qui est extrêmement important pour éviter justement des crampes, et ça arrive à beaucoup de coureurs. Donc voilà, au lieu de manger des tucs, il existe aujourd'hui des petites pastilles, sans donner de marque, hein, des petites pastilles de sodium, et il vaut mieux prendre ces petites pastilles, anticiper avant la course et bien le gérer pendant sa course, plutôt que de prendre des tucs qui sont difficiles à mâcher. Voilà. Je sais pas d'où vient ce... Un jour, il faudra chercher qui a instauré le tuc. En tout cas, le commercial de tuc est très fort.
Oui, mais alors moi, je dis ça, mais j'ai mené une course il y a 5 jours. On a fait un swim run et au dernier ravitaillement, il y avait des tucs et j'ai pris mon tuc. C'est un peu comme l'apéro, c'est un peu comme la fraise tagada, quoi. C'est le genre de truc qu'on se dit, allez, c'est le dernier ravito, je me prends mon tuc. Non, mais après, c'est vrai, il y a des, il faut le dire aussi, hein, il y a des, sur les barres, au bout d'un moment, on peut être lassé du sucré, on veut vouloir passer sur du salé. Moi, maintenant, je suis passé sur des barres salées. Il y a des marques qui font des barres salées, hein, je suis passé sur des barres salées, etc., parce que je trouve que curry, ça passe mieux que sucre, je sais pas quoi, hein, voilà, chacun ses goûts et ses habitudes. Et c'est pareil pour les boissons d'effort, hein, il y a tout un tas de boissons d'effort dans le commerce. Moi, je tourne avec mon petit mélange à moi, avec du miel, hein, voilà, je sais pas qu'est-ce qui tourne dans la gourde.
Moi, c'est grenadine, par exemple. Voilà, et un jour, j'avais un pote qui avait plus d'eau dans son sac, il m'a demandé, tu peux il détestait la grenadine et il savait pas qu'il en avait. Il a failli vomir parce qu'il y a de la grenadine. Mais c'est pour ça, donc il faut tester. Chacun a son petit truc, son astuce. Voilà. Mais par contre, jamais sans excès. Voilà.
Surtout que oui, on parle des problèmes gastriques. Hein. C'est vrai qu'on le dit, mais ça fait partie des plus grosses raisons d'abandon sur les grandes courses. Hein. C'est la plus grande cause avant les blessures, même hein, souvent d'ailleurs. Hein, c'est le plus grand problème, etc. Donc c'est quelque chose qu'on ne prend pas comme ça à la légère. Allez, j'ai une dernière question qui a été posée parce que je voudrais pas oublier une question des auditeurs parce que j'en avais beaucoup. Mais quand on s'entraîne, c'est sur le renforcement musculaire. Alors là, vraiment, c'est votre domaine, etc. Est-ce qu'on fait des séances de renforcement musculaire séparées? Est-ce qu'on les fait le jour de l'entraînement? Est-ce qu'on les fait après? Est-ce qu'on alterne? Est-ce qu'on les fait avant de courir, après de courir? Qu'est-ce qui est le mieux dans notre objectif, qui peut être d'ailleurs, peut-être qu'il y a des questions de fatigue physique, etc. Comment on place tout ça?
Par rapport au renfo, on explique sur le livre qu'il y a plusieurs types de séances. On peut faire des séances qu'on appelle isolées, c'est-à-dire qu'on va faire des séances de renfo exclusivement dédiées au renforcement musculaire. Et puis, on va faire des séances mixtes. Comme disait tout à l'heure Antoine, il y a des séances mixtes dites cardio, donc vélo, course à pied. Et puis, il va y avoir des séances mixtes où on va faire course à pied renfo, sous forme de circuit, toujours pour éviter la monotonie, parce que tu dis qu'en course, c'est le problème gastrique qui cause le plus d'abandon. À l'entraînement, c'est la monotonie qui cause le plus grand abandon, le plus grand nombre d'abandons de préparation. On fait toujours la même chose, le même parcours, etc. Donc là, voilà, on s'est pris un petit peu la tête sur la conception de ces séances pour qu'elles soient variées, ludiques, intéressantes, cohérentes, logiques par rapport à ce qu'on fait. Et donc, voilà, on peut faire du renfo isolé, du renfo avant de courir, du renfo après la course et du renfo pendant, en faisant, je ne sais pas, 7 km à une certaine vitesse, renfo à l'intérieur, ou alors on fait des micro-circuits, on fait un peu de fractionné, on revient sur du renfo en circuit, on repart sur du fractionné. Et tout ça est expliqué dans le livre avec des dominantes, des thèmes et des objectifs différents.
Voilà, et ben comme ça on a un bon tour de tout ce qu'on peut faire. J'avais une petite colle à vous poser parce qu'on parle de trail, etc. Mais quelle est la ville la plus plate de France?
Ah, la plus plate de France, la ville
en Bretagne. C'est en Bretagne.
Moi je dis Normandie.
Eh ben, la ville la plus plate de France serait, d'après les différentes sources, Grenoble. Comme quoi, vous voyez que placée où elle est placée, ça serait ville la plus plate de France. Alors là, ils n'ont pas d'entraînement, de problème d'entraînement trail avec toutes les montagnes qu'il y a autour. Et pourtant, vous voyez, comme quoi, c'est un paradoxe. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai cherché les altitudes en me disant, si je suis à Bordeaux, combien je peux faire d'altitude maximum? Il n'y a pas lourd hein, quand même dans certaines villes. Il y a des villes qui n'ont que 30 mètres de dénivelé hein, au maximum. Hein, donc ça veut dire que l'escalier, quand on le trouve, des fois, c'est peut-être le seul. les Bretons, ils ont les ports avec la marée. On peut se dire à marée basse avec les escaliers dans les ports. Ils auront toujours des escaliers, des choses comme ça. Moi, je pensais que le Havre, vous voyez, il y a 105 mètres de dénivelé au Havre. Ouais. Et Nantes, il n'y en a que 50. Et Bordeaux, on est à 42 mètres. Vous voyez qu'on n'est pas beaucoup.
Donc, c'est justement pour ça qu'on favorise aussi le tapis de course. Pas parce que c'est notre métier, mais parce que voilà, le tapis est une super alternative au manque de dénivelé.
Voilà, alors on pourrait pas, je vais pas finir quand même sans vous dire un mot. Quels sont les prochains objectifs?
Ah, bah, c'est une bonne question.
Comment réfléchir à ça en cette période maintenant hein?
Non, bah, c'est vrai que cette année, bon, forcément, ça a été compliqué. Moi, toutes mes courses se sont reportées à l'année prochaine. Donc, moi, mon objectif principal de cette année était une nouvelle fois l'UTMB. Pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Et Madère. Donc, c'était mes deux gros objectifs. Donc, ils vont être repoussés à l'année prochaine. Donc, moi, l'année prochaine, je vais l'articuler en gros autour de Madère et l'UTMB. J'aimerais bien aussi faire la Maxi Race et du T4M. Donc ça, ce serait pour le côté course à pied 2021. Et puis après, en 2022, comme on est aussi un peu soif de défis et de nouvelles aventures, pourquoi pas revenir soit sur du triathlon, donc sur des Ironman, mais un petit peu, un peu extrême, tu vois, genre le Celtoman, Embrunman, ces choses-là. Ou alors, l'un de mes derniers... grand rêve en trail course à pied, ce serait la Swiss Peak ou le Tour des Géants. Voilà, d'accord. Donc on va voir avec Rico et les copains, voilà. Et ce serait ça. Et puis aussi, j'aimerais aller une dernière fois à La Réunion, la famille et les copains pour refaire une dernière fois le Grand Raid. Mais c'est vrai que bah, tout ça, c'est un peu avec des...
Gagné 10 la dernière fois, mais chaque fois il y retourne.
Ouais, mais il parle un peu comme un futur retraité alors qu'il est, il est tout jeune. Hein.
Non, mais ça fait 10 ans qu'il part comme un retraité et il dit pour l'année prochaine j'arrête, mais chaque année il se remet des objectifs, donc on sera là encore dans 20 ans. Pas.
Surtout que c'est un sport où on peut être parfait
à 60.
Parfait à 60. Je sais pas si tu vois, pareil, un petit chiffre intéressant, la moyenne d'âge à l'UTMB il y a 3-4 ans c'était encore 56 ans. La moyenne d'âge.
D'accord. Bon, bah, ce qui donc, me laisse, moi, plus de 10 ans pour m'entraîner pour y être. Donc, ouais, non, mais c'est ça, en fait. Hein, chacun son objectif. Et non, j'ai quelqu'un, quand même, qui m'a dit qu'il avait été doublé à la Diagonale des Fous, je crois, par un papy de 72 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, qui allait bah, à son rythme, toujours à la même allure, qui n'a jamais bougé d'allure, mais qui l'a fini devant lui, je crois. Hein, il faudra qu'il me rappelle, hein, l'auditeur qui on a discuté de ça. Il m'a dit où ils se sont joués, ils sont croisés les uns les autres, ça s'est joué à quelque chose près, ils sont arrivés en même temps, mais toujours un petit papy comme ça qui a fait à la même vitesse que lui. Pourtant, ils ont peut-être 30 ans d'écart, je ne sais pas exactement combien ils ont, et pourtant, ils ont fait la même course et à la même vitesse. Bon, et ben voilà, sur ces considérations, merci, merci, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils et ben pour vraiment pour toutes ces informations-là. Pour tous ceux qui veulent se préparer, qui veulent suivre la méthode, et ben bien sûr, ils peuvent aller dans les librairies, trouver votre livre, hein, qu'on trouve dans, j'imagine, toutes les librairies. On le trouvera aussi sur Amazon. Je mets un lien affilié parce que vous savez que ça me donne un petit peu d'argent. Moi, ça finance un petit peu le podcast. Je vous remercie en tout cas tous les deux pour tous ces conseils. Et puis, on retrouvera bien sûr le livre. Je rappelle, c'est Trail, je m'entraîne en ville. Il y a une belle photo, hein, de vous deux, hein, vers la Tour Eiffel, hein, si mon souvenir est bon. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour tous les conseils et très bons entraînements et très bonnes courses.
Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Déjà de faire ta connaissance et de participer à ce podcast.
Également, merci à toi Bertrand pour l'intérêt. Et puis une petite dédicace à Juliette Rank, qui est la photographe du bouquin. Et c'était, alors c'était pas la Tour Eiffel, c'était le pont de la bibliothèque Mitterrand à Paris. Voilà, mais qui a des traits d'Eiffel un peu, ouais, effectivement.
Voilà, et bien merci à vous et à très bientôt.
Merci Bertrand.
Merci.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.